This paper has been slightly modified to optimize your listening experience. While we have included a brief description of the figures and tables, all references, citations, parentheses, appendices, footnotes and endnotes have been removed. To obtain these tables, figures, appendices, full references and citations for this paper, please view the PDF version at the Canadian Journal of Learning and Technology website, www.cjlt.ca. The copyright for this article belongs to the authors and is openly released under a Creative Commons Attribution 4.0 international license.
The title of the article is Compétences en production orale et processus d'autorégulation, exploration de l'apport du portfolio numérique d'apprentissage. The author of the article are Maxime Paquet, Université de Montréal, Anne de Thierry Carsenti, Université de Montréal. Résumé. Cet article présente les résultats d'une étude à caractère exploratoire dont l'objectif est de décrire et d'analyser l'apport du portfolio numérique d'apprentissage dans le recours à des processus et stratégies d'autorégulation par des élèves de 3e secondaire échantillon exclusivement féminin, dans des tâches de production orale. Une analyse de contenu issu d'auto-évaluation et d'entrevues individuelles, ainsi que de données issues de questionnaires, suggère que l'utilisation d'un tel portfolio, parce qu'il inclut des activités réflexives offrant un temps d'arrêt, aide les élèves en leur permettant de verbaliser les stratégies utilisées, d'en déterminer l'efficacité, puis en permettant de conserver des traces d'expérience guidant la planification d'efforts futurs d'apprentissage. Mots-clés, portfolio d'apprentissage, production orale, autorégulation des apprentissages.
Oral production skills and self-regulation processes, exploring the contribution of the e-portfolio. Abstract. This article presents the results of an exploratory study that describes and analyzes the contribution of the e-portfolio in the use of the self-regulation process. The sample used was of female grade 9 high school students during oral production tasks, a content analysis of student self-assessment and individual interviews, as well as data from questionnaires suggest that the use of the portfolio, because it includes reflective activities, supports high school students by allowing them to verbalize the strategies used to determine their effectiveness. In addition, the portfolio contains pertinent information for strategic planning in subsequent oral production tasks. Keywords: learning e-portfolio, oral production, self-regulation learning.
Introduction. Inspiré de ce que monte un artiste pour présenter ses œuvres, le portfolio utilisé en éducation a fait son apparition au milieu des années 1980 en Grande-Bretagne. À partir de ce moment, sa popularité dans les milieux scolaires a grandi au fil des années, et son utilisation s'est définie pour permettre un éventail plus large quant aux visées de l'outil. Parmi celles-ci se retrouve le développement de la capacité d'autorégulation des apprenants, offerte dans un type de portfolio qu'on nomme le portfolio d'apprentissage. Comportant un processus de réflexion métacognitive amenant l'élève à définir ses forces et ses défis, avec le soutien de ses enseignants, et à se fixer des objectifs pour que les réalisations et apprentissages subséquents puissent s'effectuer de la manière la plus efficace possible. À titre d'exemple, au Québec, le Electronic Portfolio Encourage Inactive and Reflective Learning est un modèle de portfolio numérique conçu par l'équipe du Centre Ford Study of Learning and Performance de l'Université Concordia et dont la visée première est le développement des capacités d'autorégulation de l'apprenant. Bâti selon le modèle théorique de l'autorégulation des apprentissages de Zimmerman, cet outil est utilisé par des élèves de tous les niveaux scolaires, du primaire à l'éducation des adultes. Dans le domaine de la didactique de l'oral, plusieurs chercheurs ont tablé sur l'importance de la métacognition dans le développement de la compétence orale. Or, la place accordée à cette compétence dans la classe de français est plutôt limitée, l'oral étant davantage abordé comme médium d'enseignement, c'est-à-dire sans qu'il y ait d'enseignement systématique d'objets d'enseignement. Ainsi, malgré les outils et les moyens qui existent pour permettre la réalisation d'apprentissages significatifs en oral, peu sont utilisés sur une base régulière. La Fontaine soulève d'ailleurs le fait que le portfolio constitue un outil au potentiel intéressant, mais peu documenté en didactique de l'oral, pour réaliser une consignation du travail des élèves, pour dresser un portrait de leur évolution et pour consigner des traces de leur progression sur une période donnée. Nous nous y sommes donc tout particulièrement intéressés. Objectif de recherche. Cette étude s'inscrit dans un projet de recherche ayant pour objectif général de décrire et d'analyser l'apport du portfolio numérique pour l'apprentissage de la production orale chez des élèves de 3e secondaire dans le cadre de leur cours de français, langue d'enseignement. Dans cet article, nous nous intéressons à un aspect bien précis puisque notre objectif spécifique de recherche est de décrire et d'analyser l'apport du portfolio dans le recours à des stratégies d'autorégulation lors d'activités de production orale. Avant d'aborder la méthodologie de notre recherche ainsi que les paramètres des activités d'oral impliquant l'utilisation du portfolio, il convient de présenter les assises théoriques de notre étude. Cadre théorique. Nous présenterons ici les assises théoriques nous permettant de répondre à notre objectif de recherche. D'abord, nous expliciterons les aspects théoriques du modèle de l'autorégulation des apprentissages de Zimmermann. Ensuite, nous dresserons un portrait de ce que dit la recherche sur les avantages et défis de l'utilisation du portfolio d'apprentissage sur les activités cognitives et métacognitives. L'enseignement de l'oral. En didactique de l'oral, les recherches ont permis de démontrer qu'un enseignement systématique d'objets d'oral, dans le cadre d'activités d'oral planifiées et intégrées, permet aux élèves de réaliser des apprentissages plus solides. La Fontaine a d'ailleurs proposé un modèle didactique de la production orale, qui s'appuie sur les travaux suisses de Dolz et Schmuly. L'élément clé de ce modèle consiste en l'utilisation de la séquence didactique, dont la structure s'articule autour d'un projet de communication donnant du sens aux apprentissages des élèves. Dans cette séquence, les activités débutent par une production orale initiale à travers laquelle les élèves prennent conscience de leurs connaissances et des défis à surmonter, et qui guide la mise en œuvre d'ateliers formatifs. Ceux-ci permettent un apprentissage des différents objets d'oral qui seront au cœur de la production finale, qui termine la séquence d'activité du projet de communication. En ce qui a trait aux ateliers formatifs, les travaux de Dumay ont permis d'en expliciter les 6 étapes, dont l'organisation favorise chez les élèves une meilleure préparation des productions orales et une meilleure compréhension des éléments qui seront évalués. Chaque atelier débute par l'élément déclencheur, où est présenté l'objet d'enseignement. Apprentissage d'oral qui sera abordé et qui peut être défini comme une unité décomposable en éléments qui constituent d'autres objets d'enseignement-apprentissage. Il se poursuit par un état des connaissances des élèves, permettant de relever les forces et défis associés à cet objet d'oral. Ensuite, un enseignement, explicite ou par modelage, vise l'acquisition des connaissances. Des exercices en groupe classe ou en sous-groupe offrent une occasion de mise en pratique de ces connaissances, avant un retour en grand groupe, durant lequel sont mises en commun les observations réalisées à l'étape précédente. Finalement, une activité métacognitive, axée sur la connaissance que l'élève acquiert sur ses propres processus cognitifs ainsi que sur leurs produits, donne l'occasion à chacun de consolider ses apprentissages en vue de les réinvestir dans la production finale. L'autorégulation des apprentissages. En éducation, l'approche socio-cognitive a permis de jeter un regard précis sur les processus et stratégies qui sous-tendent l'apprentissage des élèves, et ce, du primaire à l'université. À cet égard, le modèle de l'autorégulation des apprentissages proposé par Zimmermann permet de mieux comprendre comment s'organisent ces processus et stratégies. D'ailleurs, l'autorégulation peut être définie de la manière suivante, self-generated tucked, feeling, and action tired planned and cyclically adapted to the attain of personal goals. C'est à partir des travaux de Bandura que Zimmermann décrit l'organisation des processus dans ce qu'il nomme les trois phases cycliques de l'autorégulation, la phase d'anticipation, fortuct phase, la phase de réalisation, performance phase, et la phase de réflexion, self-reflection phase. Tableau 1. Phase et processus de l'autorégulation selon Zimmermann, Schunk et Dibendetto. La phase d'anticipation, se déroulant avant que les efforts nécessaires à l'apprentissage ne débutent, regroupe deux catégories de processus. La première, l'analyse de la tâche, amène d'abord l'apprenant à procéder à l'autofixation des buts d'apprentissage qu'il souhaite atteindre au terme de la tâche à réaliser. Trois conditions facilitent l'autorégulation et permettent une meilleure qualité d'apprentissage. Les buts fixés doivent être spécifiques, en précisant de manière explicite un niveau de performance à atteindre au regard d'un objet d'apprentissage. Être proximo, c'est-à-dire rapproché dans le temps pour encourager l'apprenant qui constate rapidement des progrès et présenter un niveau de difficulté suffisant pour permettre le développement de l'autorégulation. Asvedo et Al définissent cette étape comme étant plus difficile pour des élèves du secondaire, qui doivent être appuyés et guidés pour développer cette compétence. Ensuite, pour atteindre les buts fixés, l'apprenant procède à une planification stratégique qui l'amène à choisir les stratégies qu'il mettra en œuvre. Ces choix ne sont pas immuables puisque l'élève pourra revoir au besoin certaines stratégies jugées comme étant non efficaces. La seconde catégorie, celle des croyances motivationnelles, permet à l'élève de puiser la motivation nécessaire pour s'investir pleinement dans la tâche à réaliser. Différentes sources motivationnelles sont sollicitées à cette étape. Les croyances d'auto-efficacité réfèrent à la perception qu'a l'élève de sa capacité à réaliser une tâche. Les attentes quant aux résultats réfèrent aux conséquences qui découleront des résultats de la performance relative à la tâche et aux apprentissages réalisés. L'intérêt intrinsèque, quant à lui, touche la valeur et l'intérêt que représente la tâche à réaliser et, finalement, l'orientation des buts constitue la raison pour laquelle l'élève s'engage dans la tâche proposée. À cet égard, la recherche démontre que l'élève orientant ses buts vers la maîtrise d'objets d'enseignement plutôt que sur le résultat de l'apprentissage mobilise des stratégies cognitives, soit des techniques ou procédures intellectuelles choisies par une personne comme étant les plus propices à la résolution d'un problème, dont le niveau de complexité est plus élevé. Une fois les buts fixés et le plan de travail établi, l'élève met en œuvre ce dernier dans la phase de réalisation, qui regroupe également deux catégories de processus. D'abord, on retrouve le contrôle de soi, qui comporte les stratégies liées à la tâche, soit des stratégies cognitives permettant de répondre aux besoins exclusifs d'une tâche précise, l'auto-instruction, soit des consignes ou des directives que s'adresse l'élève pour se guider dans la réalisation d'une tâche, l'imagerie, ou bien par les stratégies permettant la gestion du temps, la gestion de l'environnement de travail ou de recherche d'aide auprès d'un enseignant ou d'un collègue de classe. Par ces stratégies, l'élève s'assure de maintenir réunies les conditions lui permettant d'atteindre les buts fixés au départ. Pour ce faire, il s'assurera ensuite de recourir à des stratégies permettant d'améliorer son intérêt, par exemple en attribuant volontairement un caractère compétitif à une tâche donnée, mais évaluera aussi les conséquences personnelles de ses réussites ou échecs pour guider ses efforts. Ensuite vient la catégorie de l'auto-observation. On y retrouve d'abord le monitorage métacognitif, qui consiste en une veille de l'évolution des apprentissages qu'effectue l'élève pour s'assurer que ceux-ci sont en adéquation avec les buts fixés. Parallèlement à ce processus, l'enregistrement de soi amène l'élève à garder des traces de ses actions et des résultats obtenus, à relever les stratégies qui se révèlent efficaces ou non, ainsi que les difficultés rencontrées pour atteindre ses buts. Il se construit en quelque sorte un journal de bord auquel il pourra ultérieurement se référer pour mieux réaliser des tâches d'apprentissage. Lorsque la tâche est terminée, la troisième phase de l'autorégulation se met en œuvre, la phase de réflexion. Cette phase regroupe également deux catégories de processus. La première, le jugement personnel, amène l'élève à réaliser, dans un premier temps, une auto-évaluation de sa performance afin de déterminer s'il atteint ou non les buts fixés durant la phase d'anticipation. Cette auto-évaluation l'amène à déterminer les raisons derrière ses réussites ou ses échecs, qu'elles soient d'origine interne ou externe. À cette étape, Zimmermann fait référence au concept d'attribution causale. Ainsi, l'élève qui attribue à des causes internes ses réussites ou ses échecs aura tendance à fournir plus d'efforts et à s'investir de façon constante dans ses apprentissages. La seconde catégorie, la réaction personnelle, regroupe l'autosatisfaction, impliquant la perception de satisfaction ou d'insatisfaction à l'issue du jugement personnel, et les décisions adaptatives ou défensives. Les premières comportant les stratégies qui seront réutilisées subséquemment étant donné leur efficacité ou celles qui seront améliorées, et les secondes comportant les réactions amenant l'élève à se protéger et à éviter des situations d'insatisfaction. Le portfolio pour le développement de stratégies cognitives et de la métacognition. Le ministère de l'Éducation du Québec, dans un document publié en 2002, a défini le portfolio sur support numérique comme étant une collection des travaux d'un élève qui fait foi de sa compétence montrant des traces pertinentes de ses réalisations. Au-delà de cette définition plutôt simple, la recherche a permis de présenter différents types de portfolios utilisés en contexte scolaire. Le portfolio de présentation vise à mettre en lumière les meilleures réalisations des élèves alors que le portfolio d'évaluation leur permet de faire la preuve de l'atteinte de leur niveau de compétence. Le portfolio d'apprentissage va au-delà de la simple présentation des meilleurs travaux d'un élève et ne vise pas comme principal objectif de déterminer le niveau de compétence atteint. Il constitue en réalité un outil dont l'objectif est de favoriser le développement d'habiletés réflexives face aux apprentissages, entre autres parce que la démarche qui le sous-tend s'appuie fortement sur les buts d'apprentissage poursuivis par l'élève. C'est en effet à partir de ces buts que ce dernier sera en mesure de porter un jugement sur sa progression et de réfléchir à la démarche suivie afin de s'assurer que les stratégies retenues et utilisées sont adéquates ou bien à revoir. Puisque l'élève occupe une place active et centrale dans la démarche de réflexion que requiert la réalisation d'un portfolio d'apprentissage, celle-ci lui offre un double avantage, elle permet à l'élève de mieux cerner ses forces et ses défis, tout en lui permettant de gagner en autonomie étant donné la connaissance de ses préférences liées à des modes d'apprentissage qu'il acquiert au fil de la démarche. Ainsi, recourir au portfolio d'apprentissage semble propice au développement chez l'élève d'un sens critique par rapport à l'efficacité et à la pertinence des stratégies cognitives employées, et donc d'une capacité métacognitive qui lui sera utile pour toutes les sphères de sa vie. Cette façon de travailler comporte toutefois quelques défis dont il importe de tenir compte. Notons d'abord que le portfolio est un outil qui nécessite du temps, étant donné la place importante qu'occupent les activités de réflexion, et que son utilisation nécessite un changement dans les pratiques pédagogiques des enseignants pour que l'élève soit bien accompagné. L'accompagnement de l'enseignant est d'ailleurs perçu comme essentiel pour permettre un développement efficace des habiletés métacognitives de l'élève. Il est ensuite souhaitable de limiter le nombre de compétences suivies par le portfolio, au risque de perdre en efficacité et de décourager les élèves, particulièrement au secondaire. À titre d'exemple, le portfolio e-score, dont le Canva s'appuie sur le modèle EPEARL, est conçu et adapté pour permettre aux apprenants qui l'utilisent de travailler spécifiquement sur une compétence, soit l'apprentissage de la musique, et ce, à travers une démarche favorisant le développement et la mise en œuvre de stratégies d'autorégulation. Méthodologie. Pour atteindre notre objectif de recherche, soit de décrire et analyser l'apport du portfolio numérique d'apprentissage dans l'utilisation de stratégies d'autorégulation d'élèves du secondaire lors des activités de production orale en classe de français. Nous avons adopté une méthodologie mixte s'appuyant sur un paradigme interprétatif et permettant, grâce à sa nature exploratoire, une compréhension préliminaire de ce qui est vécu par les participantes dans un contexte d'apprentissage habituel pour elles. Participantes et contexte de recherche. Notre recherche s'est effectuée durant l'année scolaire 2017-2018 auprès de 77 élèves provenant de 4 classes de 3e secondaire d'un établissement d'enseignement privé pour filles de la région de Montréal. Ces élèves ont participé tout au long de l'année à 3 situations d'apprentissage et d'évaluation intégrant des tâches de production orale construites selon la séquence didactique de La Fontaine et le modèle didactique de l'atelier formatif 2 du mai, que nous avons présenté dans notre cadre théorique. Le tableau 2 présente l'organisation générale de nos 3 SAE ainsi que l'utilisation du portfolio numérique d'apprentissage. Tableau 2. Organisation des situations d'apprentissage et d'évaluation et utilisation du portfolio. Après chaque production, qui était enregistrée sur vidéo, les élèves devaient réaliser 2 auto-évaluations, une première avant l'écoute de la vidéo et une seconde, après l'écoute. Ces auto-évaluations étaient construites selon un canevas bien précis et permettaient un retour, d'une part, sur la production orale proprement dite, d'autre part, sur tout le processus d'apprentissage qui entourait sa réalisation. Entre les SAE 2 et 3, les élèves ont également rempli une fiche synthèse de réflexion ayant permis un retour sur leurs apprentissages. Ces fiches d'auto-évaluation et de réflexion, les enregistrements vidéo, ainsi que les documents pertinents pour témoigner de l'apprentissage, étaient intégrés au fur et à mesure dans un portfolio numérique réalisé dans l'interface Google Drive, de la suite Google Apps for Education. Ainsi, d'une situation d'apprentissage à l'autre, les élèves pouvaient consulter les éléments déposés dans le portfolio afin de se remémorer les forces et les défis, ainsi que les buts fixés d'une production orale à l'autre 10 outils de collecte de données. Pour décrire et analyser l'apport du portfolio numérique d'apprentissage dans notre contexte, les élèves ont répondu à 2 questionnaires à choix multiples, le premier ayant été administré avant le début des SAE et le second, après l'expérimentation du portfolio numérique d'apprentissage. Ceux-ci ont été construits dans l'interface Google Formulaire et sont constitués d'énoncés sous forme de questions fermées. Chaque questionnaire comporte des énoncés portant entre autres sur les processus d'autorégulation, organisés selon les 3 phases du modèle de Zimmerman et construits en nous appuyant sur les travaux d'Abrami et Hall. Le second questionnaire visant à recueillir des données liées à l'utilisation du portfolio numérique, le nombre d'énoncés le constituant est plus élevé afin de tenir compte de cette expérimentation par les élèves. Pour chacun de ces énoncés, celle-ci devait répondre en indiquant la fréquence à laquelle chacun des éléments se produisait, selon le choix de réponse suivant, toujours, la plupart du temps, rarement, jamais, je ne sais pas. Nous avons sélectionné 16 élèves dont le portfolio était complet et qui ont accepté de participer à l'entrevue. Les réflexions rédigées dans leur fiche d'auto-évaluation et de réflexion, et leurs propos recueillis lors d'entrevues individuelles semi-dirigées, ont été colligés pour compléter les données nécessaires à l'atteinte de notre objectif de recherche. Le niveau de compétence en production orale de ces élèves correspondait aux attentes de leur niveau scolaire, ou bien les dépassait. Aucun élève présentant un niveau de compétence inférieur aux attentes du niveau scolaire n'ayant complété adéquatement l'ensemble des auto-évaluations des 3 SAE, nous n'avons pu inclure celle-ci dans notre analyse. Stratégie d'analyse des données. D'abord, grâce au logiciel Microsoft Excel pour Mac, nous avons procédé à une analyse statistique descriptive en créant des distributions de fréquences, et ce, afin d'analyser les réponses aux 2 questionnaires. Les résultats, présentés sous forme de tableau de fréquences, nous ont permis d'obtenir un portrait global de l'utilisation de processus d'autorégulation par les élèves de notre échantillon. Nous avons ensuite utilisé le logiciel NVivo, version 12.5, 0, pour effectuer une analyse de contenu des réflexions issues des fiches d'auto-évaluation et de réflexion, ainsi que des propos provenant des entrevues, selon la démarche proposée par Bardin. À travers cette démarche, nous avons codé ces éléments en suivant une grille de codage réalisée à partir des processus d'autorégulation, et qui a été modifiée et bonifiée au fil de l'analyse. Résultats et discussions. Pour répondre à notre objectif de recherche, qui est de décrire et d'analyser l'apport du portfolio numérique d'apprentissage dans l'utilisation de stratégies d'autorégulation d'élèves du secondaire en classe de français, langue d'enseignement. Nous présentons et discutons les résultats les plus pertinents selon les trois phases du modèle de l'autorégulation des apprentissages de Zimmermann. L'analyse de ces réponses nous montre d'entrée de jeu que les élèves accordent beaucoup d'importance, à juste titre, aux consignes et exigences présentées par l'enseignant, menant par la suite vers la fixation des buts d'apprentissage par les élèves, étape importante du processus d'analyse de la tâche. En effet, que ce soit avant ou après la réalisation des trois SAE, une très forte majorité des élèves affirment bien lire les documents de consignes reçus et poser des questions à l'enseignant ou aux collègues de classe lorsqu'il y a un besoin de clarification. Toutefois, les stratégies plus avancées telles que la reformulation des consignes dans ces mots, la demande de relecture de cette reformulation par des collègues de classe, ou bien la formulation d'objectifs précis guidant la préparation sont réalisées toujours ou la plupart du temps dans une proportion beaucoup moins importante. D'ailleurs, lorsque les buts formulés par les élèves sont analysés et comparés aux conditions présentées par Zimmermann et Hall, certains éléments attirent l'attention. D'abord, toutes les élèves dont les fiches d'auto-évaluation incluses dans le portfolio et les propos tenus en entrevue ont été analysées ont formulé des buts proximaux, dont la réalisation était possible durant la SAE en cours ou lors de la SAE subséquente. De plus, en majorité, les buts sont personnels à l'élève, parfois associés explicitement aux exigences de l'enseignant présentées dans les grilles d'évaluation ou dans les consignes de départ. Quoi qu'il en soit, il s'agit, pour toutes les participantes, de buts spécifiques, en ce sens qu'il porte sur la maîtrise d'objets d'oral explicitement nommés, mais la formulation de ces buts reste assez malgré tout vague dans la plupart des cas, rendant difficile l'évaluation de leur niveau de difficulté. EA02-FR02, être plus naturel et mieux préparé. EA25-FR02, j'avais identifié comme élément à travailler la progression et la cohérence. Il est aussi intéressant de constater que la fixation de ces buts s'effectue pour la majorité des élèves sans consulter les auto-évaluations réalisées dans les SAE précédentes, étant donné qu'elles disent se rappeler les notions à travailler, ou bien parce qu'elles ont l'impression que ce sont les mêmes objectifs qui reviennent d'une fois à l'autre. Or, Zimmermann insiste bien sur l'importance de la formulation de ces buts afin d'amener les élèves à réaliser de meilleurs apprentissages et à améliorer leurs habiletés métacognitives. Dans notre contexte, les élèves ne sont pas arrivés à démontrer un haut niveau de maîtrise de cet aspect important de l'autorégulation, et le portfolio ne semble donc pas avoir constitué un outil aidant, et ce, même si l'organisation des SAE selon la séquence de La Fontaine avait prévu l'explicitation des buts et objectifs d'apprentissage propres à chaque projet de communication. Nous savons toutefois que cette étape est difficile pour des élèves du secondaire et que l'encadrement par l'enseignant, entre autres grâce à la rétroaction, appuie les élèves dans l'approfondissement de leurs habiletés cognitives et métacognitives. Or, à la lumière des discussions que nous avons eues avec l'enseignante qui a collaboré avec nous durant la collecte de données, l'encadrement des élèves s'est davantage effectué de manière globale, en grand groupe, plutôt que de façon individualisée, et ce, en raison de la charge de travail, réalité largement médiatisée. Nous pouvons donc émettre l'hypothèse que ce mode de rétroaction et d'encadrement limite la capacité des élèves à peaufiner le transfert des buts spécifiques liés à une SAE vers des buts spécifiques propres à l'élève. Les élèves auraient pu peaufiner davantage leur capacité à y arriver. En ce qui a trait maintenant à la planification stratégique, moins de la moitié des élèves ont répondu prendre le temps de déterminer des moyens à mettre en place pour atteindre leur but, et ce, tant dans le premier questionnaire que dans le second. Ajoutons à cela que lorsqu'on leur demande dans le second si elles dressent et notent dans leur portfolio la liste des moyens à mettre en place pour surmonter les difficultés qu'elles entrevoient, la proportion d'élèves ayant répondu toujours ou la plupart du temps n'est que de 23,4%. Ces résultats se traduisent, dans les auto-évaluations et durant les entrevues, par une difficulté à expliciter de manière claire et détaillée des stratégies utilisées durant la réalisation de tâches de production orale. Lorsqu'elles doivent indiquer, dans les fiches d'auto-évaluation, ce qu'elles comptent refaire de la même manière et ce qu'elles souhaitent faire différemment en vue d'une prochaine production orale, plusieurs élèves ne répondent qu'en énonçant les buts à atteindre la prochaine fois, ou bien en mélangeant les buts avec des stratégies à mettre en œuvre. Les deux exemples suivants l'illustrent bien. EA01-FR06, je compte rester le plus naturel possible, parce que sinon ça rend la conversation étrange. J'essaierai de m'imposer un peu plus dans la discussion. EB23-FR02, je vais travailler mon vocabulaire. Je vais essayer d'être plus enthousiaste. On observe d'ailleurs cette tendance dans la figure 1, qui présente le pourcentage associé aux différents types de réponses relevées. La première et la seconde SAE comportent des auto-évaluations portant sur le même genre oral, l'exposé oral pour la première SAE, la discussion pour la seconde. On observe une évolution des réponses des élèves, en ce sens que le pourcentage associé aux réponses comportant uniquement des stratégies augmente de façon importante entre la première et la seconde auto-évaluation. Ce qui n'est pas le cas dans la troisième SAE, dont les deux auto-évaluations portent chacune sur un genre oral différent, l'exposé oral pour la première auto-évaluation, la discussion pour la seconde. Ce qui peut sans doute expliquer cette différence. De plus, ces résultats semblent montrer que l'expérience et les apprentissages réalisés au cours d'une SAE permettent aux élèves de mieux saisir l'effet des stratégies utilisées sur la production orale. Et, bien que la démarche associée à la séquence et au modèle didactique présenté dans notre cadre théorique et ayant guidé l'élaboration des SAE ait certainement contribué à cette prise de conscience, l'utilisation des fiches d'auto-évaluation et de synthèse, qui constituent, avec les enregistrements vidéo, les éléments centraux du portfolio réalisé par les élèves, leur a offert un temps d'arrêt permettant le questionnement et l'objectivation du processus d'apprentissage et des stratégies privilégiées, avantage d'ailleurs identifié par Scalon ainsi que Tilma et Smith. Figure 1, pourcentage associé au type dénoncé dans la planification stratégique. Au point de vue des croyances motivationnelles, cet élément est largement associé à la question de l'engagement affectif, que nous avons abordé en détail dans un autre article. Nous pouvons toutefois rappeler que la question du faible intérêt intrinsèque est préoccupante, dans la mesure où peu d'élèves manifestent leur enthousiasme à l'idée de préparer une production orale, et que cet aspect est important pour favoriser le recours à des stratégies d'autorégulation efficaces. Quant aux croyances d'auto-efficacité, la grande majorité des 16 élèves dont les fiches d'auto-évaluation et de réflexion ainsi que les entrevues ont été analysées ont affirmé croire pleinement ou moyennement, selon le genre oral travaillé, en leur capacité de réaliser de bonnes productions orales. Finalement, toutes ces élèves ont fixé des buts de maîtrise, même si elles l'ont fait de façon sommaire. Ces deux paramètres des croyances motivationnelles constituent des indicateurs de l'autorégulation, conformément à ce qu'avancent Zimmermann et Hall. Le portfolio et la phase de réalisation. Les réponses portant sur la phase de réalisation et exprimées dans les deux questionnaires nous offrent un premier portrait des stratégies générales mises en œuvre par les élèves durant la préparation et la réalisation d'une production orale. De façon générale, la relecture des consignes et l'utilisation des commentaires de l'enseignant et des collègues de classe pour améliorer le travail sont des stratégies utilisées toujours ou la plupart du temps par une grande majorité d'élèves. En revanche, et sans surprise étant donné les résultats obtenus pour la phase de préparation, le recours à une liste d'objectifs pour vérifier la progression est une stratégie qui n'est mobilisée toujours ou la plupart du temps que par un peu plus de la moitié des participantes. Alors que le fait de noter toujours ou la plupart du temps dans le portfolio les modifications apportées aux stratégies mobilisées n'est effectué que par 22,1% des participantes. Tableau 4. Pourcentage des réponses exprimées aux questions portant sur les stratégies d'autorégulation durant la phase de réalisation. L'analyse de contenu du matériel écrit nous permet elle aussi d'obtenir des informations intéressantes sur les stratégies qui permettent aux élèves de maintenir un contrôle sur leur processus d'apprentissage. Le tableau 5 présente le nombre et le pourcentage d'élèves ayant mobilisé certaines des stratégies de contrôle de soi proposées dans le modèle de Zimmermann. Tableau 5. Pourcentage des stratégies de contrôle de soi utilisées par les élèves. Les résultats montrent que les trois stratégies les plus utilisées sont les stratégies centrées sur la tâche, celles concernant la gestion du temps et celles visant la recherche d'aide. Lorsque nous analysons les stratégies centrées sur la tâche qui ont été mobilisées par les élèves, nous constatons qu'un total de 62 stratégies différentes se dégagent de la recension. Parmi celles-ci, 48 sont des stratégies que nous avons qualifiées de générales, c'est-à-dire applicables à une grande variété de projets de communication. La préparation du contenu de sa production orale sous forme de plan par point, l'utilisation des documents fournis par l'enseignant et le fait de ne pas apprendre un texte par cœur sont les trois stratégies générales les plus utilisées. Les autres stratégies, au nombre de 14, sont dites spécifiques, c'est-à-dire qu'elles s'appliquent à un projet de communication en particulier. Nous retrouvons, par exemple, la prise de notes sur un roman en préparation à la discussion, ou bien la réponse aux questions préparatoires sur les critères d'appréciation. Qui sont les deux stratégies spécifiques les plus utilisées dans la deuxième SAE? L'utilisation du portfolio d'apprentissage semble avoir offert un avantage important concernant la verbalisation de ces stratégies par les élèves. En effet, l'analyse de contenu des fiches d'auto-évaluation et de réflexion, ainsi que des propos tenus durant les entrevues, nous permet de constater que chaque élève utilise une variété de stratégies, en plus d'être en mesure de référer, dans ses fiches d'auto-évaluation, aux stratégies utilisées durant la phase de réalisation. En effet, le tableau 6 souligne que les élèves ont utilisé en moyenne 15 stratégies différentes dans les 3 SAE, et la majorité des stratégies utilisées par les élèves ont été verbalisées dans les fiches d'auto-évaluation réalisées après chaque production orale ainsi que dans la fiche synthèse de réflexion remplie après la deuxième SAE, plutôt que durant les entrevues, où l'on ne retrouve que 3,9 stratégies verbalisées en moyenne. Ce constat nous montre que les fiches d'auto-évaluation et de réflexion incluses dans le portfolio constituent un outil important afin de permettre la verbalisation des stratégies. Tableau 6. Moyenne du nombre de stratégies verbalisées par élève. Ajoutons aussi que cette verbalisation permet à l'élève un développement du sens critique face à sa démarche, comme l'évoque Scalon. Nous avons pu constater la manifestation du sens critique à travers les réflexions des élèves, particulièrement en ce qui a trait au fait d'apprendre ou non son texte par cœur en vue d'une production orale. Plusieurs élèves ont en effet mentionné dans les fiches d'auto-évaluation et de réflexion incluses dans le portfolio, tout le long de la réalisation des 3 SAE, que cette stratégie s'était montrée inefficace. Il s'agit donc d'un exemple de l'apport intéressant de cet outil quant au développement du sens critique des élèves. EB23-FR08. Je pense que je ne vais plus apprendre du texte par cœur comme dans mes oraux auparavant, car j'ai appris que je fais mieux si je n'apprends pas de texte. L'analyse des processus de monitorage métacognitif et d'enregistrement de soi, qui sont au cœur de l'auto-observation durant la phase de réalisation, apporte un éclairage intéressant quant à la capacité des élèves à analyser leur processus d'apprentissage, nous permettant ainsi de mieux comprendre l'apport du portfolio d'apprentissage dans l'utilisation de ces stratégies d'autorégulation. Cette analyse montre d'abord que le monitorage métacognitif est une tâche difficile pour plusieurs élèves puisque sur les 16 participantes dont le matériel écrit et les entrevues ont été analysées, 9 indiquent des difficultés à constater l'évolution de leurs apprentissages, tandis que 4 indiquent une facilité à le faire. Toutefois, les passages relevant de l'enregistrement de soi sont présents de façon importante chez toutes les participantes et comportent différents types de contenus qui sont présentés dans le tableau 7. On y constate que la majorité des élèves sont capables d'identifier des difficultés et des stratégies, efficaces ou non, à l'issue d'un travail intellectuel d'analyse de la démarche d'apprentissage. Tableau 7. Proportion des types de contenus exprimés par les élèves dans les passages relevant de l'enregistrement de soi. Il semble donc y avoir une discordance entre ce qu'expriment les élèves dans le questionnaire et ce qui ressort de l'analyse de contenu du matériel, ainsi que des entrevues. En effet, dans le second questionnaire de recherche, à l'énoncé, je note dans mon portfolio les modifications que j'apporte à ma façon de faire au fur et à mesure qu'elles surviennent, seulement 22,1% des participantes ont indiqué le faire toujours ou la plupart du temps. Les élèves ne semblent donc pas avoir fait le lien entre la question posée dans le questionnaire de recherche et cette opération cognitive associée au portfolio qu'elles ont toutes manifestée dans les fiches d'auto-évaluation et de réflexion qu'elles y ont incluses. Cette capacité à bâtir un répertoire constitue un élément crucial de l'autorégulation, puisqu'elle permet à l'élève de disposer d'un bagage qui l'amènera à mieux planifier ses efforts d'apprentissage futurs et qui lui seront utiles dans sa vie professionnelle. L'utilisation du portfolio contribue donc à la construction par les élèves de leur répertoire de traces d'apprentissage, comme l'encourage Zimmermann et Hall. Mais la discordance entre les résultats issus du questionnaire et les observations issues de l'analyse de contenu rappelle l'importance de l'accompagnement des élèves durant le processus de réflexion, tel que l'ont soulevé Hartnell et Hall, mais aussi la formation à mettre en place pour permettre le développement de leur pleine conscience métacognitive, comme le souligne Zimmermann. Le portfolio et la phase de réflexion. La troisième phase de l'autorégulation amène l'élève à porter, dans un premier temps, un jugement personnel sur le résultat de ses apprentissages en procédant d'abord à une évaluation de sa performance. Rappelons que pour Scalon, l'auto-évaluation est au cœur du processus de réalisation d'un portfolio d'apprentissage, et que les élèves ayant participé à notre recherche ont eu l'occasion d'en réaliser deux après chaque production orale. Une première sans écouter l'enregistrement de celle-ci, une seconde après l'écoute. L'apport du portfolio numérique d'apprentissage sur la capacité d'auto-évaluation des élèves a été exposé et discuté dans un autre article, donc nous ne reprendrons ici que la synthèse des conclusions auxquelles nous sommes arrivés. Les résultats que nous y avons présentés démontrent que la démarche proposée par le portfolio d'apprentissage, plus particulièrement la réflexion sur les processus et apprentissages réalisés aux différents moments des SAE à l'aide des enregistrements vidéo, amène les élèves à mieux déterminer leurs forces et leurs défis en production orale. Même s'il est encore difficile pour certaines élèves de déterminer de façon juste leur niveau de compétence. En revanche, Malgré des difficultés d'organisation des documents dans le portfolio, la grande majorité des élèves voient une pertinence à réaliser des auto-évaluations de leur production orale. L'utilisation des enregistrements vidéo permet véritablement, de son côté, une prise de conscience plus juste par les élèves. Et le fait que ces enregistrements permettent de garder dans le portfolio des traces des productions réalisées offre à l'élève la possibilité de mieux constater son évolution à travers le temps. Les résultats de la recherche que nous présentons ici suggèrent que le portfolio a permis aux élèves de verbaliser les causes de leur réussite et de leurs échecs. L'analyse de ces attributions causales permet de soulever le fait que 67% d'entre elles sont internes, c'est-à-dire associées à des stratégies mises en œuvre qui ont fonctionné ou non. Cette observation est intéressante dans la mesure où plus l'élève réfère à des causes internes, plus ses efforts risquent d'être maintenus dans le temps. C'est ce qui semble être le cas pour près des deux tiers de notre échantillon, et cette prise de conscience ne peut qu'être bénéfique pour le développement de leur capacité d'autorégulation. Finalement, en ce qui a trait aux réactions personnelles, les segments codés référant à l'autosatisfaction se retrouvent chez toutes les élèves, et ce, que ces réactions soient positives ou négatives. Aussi, les élèves ont toutes exprimé des décisions adaptatives dans leur fiche d'auto-évaluation et de réflexion, montrant ainsi qu'elles souhaitent apporter des modifications à des stratégies pour gagner en efficacité dans le futur. Tel que le précise Zimmermann et Hall. Quant aux décisions défensives, elles ne s'observent que chez 4 participantes et ne représentent pas la majorité des décisions exprimées chez celles-ci. L'utilisation du portfolio d'apprentissage comme outil favorisant la réflexion et la métacognition permet donc de mettre en lumière et de guider les processus d'autorégulation associés à la phase de réflexion, et ce, grâce à la démarche proposée dans les fiches d'auto-évaluation et de réflexion. Malgré ces bénéfices associés à l'utilisation du portfolio numérique d'apprentissage, les élèves ont éprouvé du mal à tirer pleinement profit de l'aspect organisationnel de l'outil, soit le fait qu'il serve de contenant à l'ensemble des traces d'apprentissage. Dans le second questionnaire de recherche, certaines réponses montrent d'ailleurs que près de la moitié des participantes ont du mal à percevoir l'utilité et la pertinence de l'outil dans leurs tâches de réflexion. Tableau 8. Pourcentage des réponses exprimées face à l'utilité du portfolio. Les commentaires recueillis durant les entrevues abondent dans le même sens. Puisque lorsqu'on demandait aux participantes de nous parler de leur perception de l'aspect organisationnel du portfolio pour regrouper l'ensemble du matériel ayant permis la réflexion sur les productions orales, 14 des 16 participants ont indiqué ne pas avoir pleinement trouvé une utilité au portfolio lui-même. EA01-1, je sais pas si ça a vraiment été utile parce que je suis pas allé vraiment visiter les dossiers et vraiment revu les critères et les vidéos. J'ai pas vraiment prêté attention au portfolio. Je fais juste remplir, puis après ça, ok, c'est fini. EB26-1, le portfolio numérique, j'allais pas beaucoup le voir, donc je n'ai pas vraiment vu à quoi ça servait. Mais j'ai l'impression que si je serais allé le voir, ça m'aurait plus aidé, parce que j'aurais pu faire un résumé de la situation d'oral avant celle que j'allais faire, ça aurait pu m'aider, mais je ne l'ai pas vraiment fait. Conclusion. L'objectif que nous visions dans cet article était de décrire et d'analyser l'apport du portfolio numérique d'apprentissage dans l'utilisation de stratégies d'autorégulation d'élèves du secondaire lors d'activités de production orale. L'analyse quantitative et qualitative que nous avons effectuée nous a permis de mieux comprendre cet apport au regard des différentes phases de l'autorégulation du modèle de Zimmermann. Au départ, la fixation des buts est une étape réalisée partiellement par les élèves, qui ont peu le réflexe de consulter les auto-évaluations antérieures pour déterminer ces buts. L'utilisation du portfolio ne semble pas avoir appuyé de manière adéquate les élèves dans ce processus, ce à quoi nous attribuons l'hypothèse du manque d'encadrement des enseignants. La planification stratégique, quant à elle, semble bénéficier des outils du portfolio, étant donné qu'entre deux productions les fiches d'auto-évaluation offrent aux élèves un temps d'arrêt réflexif, qui constitue donc un apport pertinent associé au portfolio d'apprentissage. Il lui permet, au terme du monitorage métacognitif et de l'enregistrement de soi, de s'appuyer sur les différents documents reliés à la SAE, d'y consigner ses expériences d'apprentissage réussies ou non, de les commenter et de déterminer les stratégies les plus efficaces et celles à modifier afin de guider la planification de ses futurs efforts d'apprentissage. La démarche réflexive associée au portfolio offre enfin un temps d'arrêt permettant également une auto-évaluation de la performance, ainsi que l'établissement des attributions causales et des décisions adaptatives et défensives qui en découleront. Toutefois, l'aspect organisationnel du portfolio ne semble pas contribuer à développer les stratégies d'autorégulation des élèves dans les tâches d'oral. Comme l'a démontré l'analyse des réponses au second questionnaire de recherche ainsi qu'aux entrevues semi-dirigées. Ainsi, l'utilisation des outils réflexifs associés au portfolio numérique d'apprentissage nous apparaît pertinente pour appuyer le développement des stratégies d'autorégulation en production orale. Toutefois, à l'instar des recommandations issues de la recherche, il importe d'assurer un suivi serré auprès des élèves et d'offrir de la formation afin de les guider vers une utilisation optimale de l'outil, notamment en ce qui a trait au processus d'autofixation des buts, qui représente un défi pour les élèves. De plus, afin d'accroître l'efficacité des élèves dans l'utilisation du portfolio et des fiches d'auto-évaluation, une modélisation aurait tout avantage à être effectuée. Que ce soit en explicitant la démarche de réflexion pour les élèves ou bien en proposant un modèle de portfolio déjà construit pour que les élèves disposent de points de repère sur lesquels s'appuyer. Comme toute recherche comporte ses limites et ses forces, il convient d'évoquer les nôtres pour mieux apprécier nos résultats. En matière de limites, nous pouvons souligner l'échantillon que nous avons choisi, constitué uniquement de filles fréquentant un établissement privé. De plus, notre échantillon ne tient pas compte des élèves qui présentent un niveau de compétence en production orale inférieur aux attentes pour leur niveau scolaire. Les résultats que nous avons obtenus grâce à celui-ci s'appliquent donc à un contexte bien précis, ce qui les rend difficilement transférables. Toutefois, le caractère exploratoire de notre recherche justifie le choix de l'échantillon et constitue également une force. En effet, notre recherche permet de jeter un regard particulier sur la démarche intellectuelle sous-jacente au portfolio d'apprentissage et qui caractérise le travail de l'oral par des élèves du secondaire. Elle permet une compréhension plus précise du rôle des outils proposés par le portfolio d'apprentissage de la production orale aux différents moments de la réalisation des tâches. Il s'agit donc d'une contribution intéressante dans le champ de la didactique de l'oral. Pour aller plus loin dans cette compréhension, nous croyons qu'il serait intéressant de pousser davantage l'analyse des stratégies pour mieux comprendre quelles sont précisément celles qui sont mobilisées par les élèves en fonction du genre oral travaillé, ce qui permettrait très certainement de mieux comprendre leurs interactions et les modèles qui sont récurrents. Il importe également de mener des recherches portant sur les moyens de faciliter la rétroaction des enseignants dans un contexte où la lourdeur de la tâche est vue comme un frein à l'accompagnement adéquat aux élèves. Auteur. Maxime Paquet est titulaire d'un doctorat en psychopédagogie à l'Université de Montréal, où il œuvre comme professionnel de recherche. Il est également enseignant et conseiller pédagogique dans le domaine du numérique et du français au Collège Sainte-Marceline. Affiliation, Université de Montréal, Canada. Thierry Carcenti, MA, MEd, PhD, est directeur du CRIFPE, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur le numérique éducation, professeur titulaire à l'Université de Montréal, et membre de l'Académie des sciences du Canada. Ses réalisations portant sur le numérique en éducation ont été reconnues par de nombreux prix nationaux et internationaux. Affiliation, Université de Montréal, Canada. Thies de Hove de Article. The Full Text of the Article is available at the Canadian Journal of Learning and the Technology website, www.cjlt.ca.